Le retour du loup par les trois vallées. Une émission réalisée par le Collège de Florac.
Elle tressaillit, elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites.
L'hiver dernier a été proposé à une vingtaine de collégiens un itinéraire de découverte autour de la figure du loup. Itinéraire initié par Marie Lyon et Fabien Kopp, enseignants au Collège des Trois-Vallées de Florac, est mené dans le cadre du contrat éducatif local. Pour nourrir le dialogue autour de cet animal polémique, des rencontres avec des acteurs compétents ont été organisées en classe pour concrétiser une approche directe du problème et stimuler le questionnement autour du retour du loup sur notre territoire. Les élèves ont pu ainsi interviewer au collège un vétérinaire, un éleveur, une technicienne de la Chambre d'agriculture et un journaliste de France 3. Au bout de ce véritable parcours de connaissances, ils se sont formés un point de vue plus éclairé sur ce sujet sensible. Cette émission, en 4 épisodes, vous en retrace l'itinéraire pédagogique.
La semaine dernière, en allant vers Marne, le chevreuil a été heurté par une voiture. Il se déplaçait donc difficilement blessé. Des gens se sont arrêtés. Il y avait des promeneurs, tout ça, qui étaient là. Et ils ont vu arriver un loup qui n'était pas donc à l'origine de la prédation, mais qui a commencé à chasser ce chevreuil qui était facile à attraper, au vu et au su des gens qui ont pris des photos. On a vu des photos de face, de profil, de dos, de ce loup, ce qui a permis de savoir que c'était un loup et non pas un chien. Parce que un chien loup et un loup, vu rapidement et s'il fait un peu sombre, on peut les confondre. Hein.
Monsieur, un loup, ça fait ça.
Non, mais un grand chien loup, il y a des grands chiens loups qui sont comme ça. Hein. Un loup, il est grand sur pattes. En gros, la femelle, elle va peser de 35 à 45 kilos. Et le mâle, il va peser de 40 kilos à 85 kilos les plus gros qui ont été répertoriés. C'est énorme, 85 kilos.
C'est un tigre, le chat. Les maladies sanitaires ne font-elles pas plus de morts que la présence du loup ?
Alors, c'est sûr que les maladies, si on les laissait évoluer, c'est vrai qu'elles feraient des dégâts, puisque à l'intérieur d'un même troupeau, quand un animal est contaminé, comme tous les animaux sont dans la même situation, ils ont tendance à être contaminés eux aussi. Mais mon rôle, moi, de vétérinaire, c'est d'arrêter ça. Et donc, on soigne les autres animaux. On fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on vaccine contre les maladies qui sont les plus fréquentes, ce qui permet d'éviter les pertes par les maladies. Actuellement, les maladies sont relativement bien tenues et contenues, sauf les nouvelles. On a toujours une nouvelle maladie qui vient et qui laisse imaginer qu'on pourrait avoir des dégâts. Mais il y a des systèmes de prophylaxie. La prophylaxie, c'est de rechercher quelle est la possibilité d'atteinte sur un animal. On fait des prises de sang tous les ans sur les troupeaux. Là, tous les animaux sont prélevés et on fait des analyses sur ce sang pour éviter la survenue de nouvelles maladies. Donc les maladies, on les contient un tout petit peu. Il y a la possibilité. Si on ne fait rien, bien sûr, ça ferait...
Est-ce qu'on arriverait à mettre des chiffres, par exemple, de mortalité par an d'un troupeau moyen de, je sais pas, 50 bêtes ou 100, je ne sais pas.
Oui.
De mortalité par maladie, par chien errant et par loup actuellement. Est-ce qu'on arriverait à mettre des chiffres là-dessus ?
Sur un troupeau normal, hein, on va compter que la perte normale sans maladie, par accident, par mortinatalité, c'est-à-dire quand un agneau vient au monde, il ne vient pas toujours vivant. Il y a des fois, il s'étouffe en naissant. Donc cette mortalité du jeune est de l'ordre de 5% des agneaux. La mortalité sur un troupeau par pattes cassées, qui nécessite de les abattre, puisque on ne fait pas de médecine totale sur les animaux de production. Il faut que la médecine qu'on réalise sur eux soit rentable. C'est-à-dire tous les actes ne sont pas faits. Quand un animal qui a atteint par exemple par une fracture est utilisable en boucherie, on va ne pas laisser évoluer la fracture, on va envoyer cet animal à l'abattoir, on enlèvera toute la zone qui contient la fracture et le reste est utilisé comme viande. C'est une viande de deuxième qualité, hein, c'est-à-dire qu'elle va servir à fabriquer des conserves. Hein. Elle ne sera pas consommée en l'état. En mortalité, donc, par maladie, c'est-à-dire même en soignant, il y a des fois où la maladie quand même arrive à gagner, c'est de l'ordre de 2% à peu près sur l'ensemble des pertes. Donc, entre la maladie et la mortalité, c'est-à-dire ce qui se passe du fait du pas de chance, c'est de l'ordre de 7%, 5 à 7%. Pour un troupeau qui n'est pas très bien surveillé. Parce que le but, c'est justement de baisser ses pertes. Les pertes par les chiens, par l'attaque des chiens, on ne peut pas la donner aussi facilement. Mais c'est inférieur à 1%. Bien que les attaques de chiens, quand des chiens attaquent un troupeau de moutons, c'est 8, 10 animaux qui vont être mort par les morsures, justement parce que le chien, il manque ces trucs, il est pas bon quand il chasse, donc il attrape n'importe où et il va en attraper beaucoup, et ces animaux vont mourir, pas tout de suite des fois, s'ils sont pas surveillés ils vont mourir le lendemain ou des choses comme ça, mais il va y avoir beaucoup d'animaux atteints. Quand le loup attaque, s'il est bon, il va tuer une bête et il va se contenter de ça. Mais malheureusement, on a des loups actuellement qui ne sont pas bons. Et je vous expliquerai pourquoi.
Il raconte que sa vie, et puis toujours la même histoire, son histoire, celle du loup dans la bergerie. On y comprend que dalle, mais ça fait rigoler. Et même si on se fout de lui, on lui paye une tournée pour qu'il raconte encore et encore l'histoire du loup dans la bergerie.
En général, les chiens se groupent, ils font une meute de polissons, c'est-à-dire qu'ils vont, aller faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas prévus. Hein. Les chiens, ils n'ont pas à chasser le mouton, hein, ils ont des croquettes à leur disposition. C'est du jeu qu'ils vont faire, c'est un jeu de prédation et ils vont aller bousculer, c'est pas la faim qui les amène souvent à tuer. Et le loup, lui, c'est la faim, il faut qu'il se nourrisse. Et donc il choisit ne pas dépenser d'énergie et récupérer le maximum d'énergie, donc l'animal le plus facile.
Donc en fait, en synthèse des chiffres, on est d'accord que le loup, c'est minime.
C'est pas minime, on peut pas
dire. Peut-être 10% de perte maximum sur un troupeau par. Voilà,
de mort naturelle
ou
voilà. Si on prend les chiffres généraux, oui, ça fait relativement peu chez nous. Parce que dans les Alpes, il faut imaginer que pour un animal atteint et mangé par le loup, il y a des fois 50 à 100 brebis qui sont effrayées et qui tombent de falaise. Nous, on n'a pas ce cas-là dans la majorité des cas. Les animaux sont sur des zones moins accidentées et donc on a moins de dégâts par accident collatéral. Par contre, le dégât qu'il y a est un dégât, j'allais dire, presque psychique. C'est-à-dire que la peur du loup, elle existe réellement, fortement, et elle est innée chez le mouton. Et donc, un troupeau qui a été prédaté par un loup qui n'a fait peut-être qu'une ou deux victimes, devient ingérable pour plusieurs années. C'est ça qui est grave. Si on pouvait arrêter cette chose-là, arriver à empêcher le loup de consommer des moutons, ça serait facile. Mais on verra peut-être, j'ai vu qu'il y avait des sujets, on ne va pas aller déflorer tout de suite.
Est-ce que le loup est revenu tout seul ? Il vient tout seul ?
Tout seul ?
Est-ce qu'il est revenu tout seul en Lozère, c'est ça ?
Ah oui.
Est-ce qu'il est revenu, on parle du retour du loup palestinien.
Il n'a pas été lâché.
Voilà. Est-ce qu'il est revenu ou est-ce qu'on l'a réintroduit?
Non, on ne l'a pas réintroduit. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, les ados dans la meute de loups, ils sont obligés d'aller chercher un territoire de chasse. Et donc, ce sont ces ados qui vont très loin. Un loup, dans sa journée, peut faire 50 à 100 km de terrain. Donc, s'ils ne trouvent pas, à partir du noyau des Alpes, tous les loups qu'on a eus et qu'on aura certainement pour l'instant, viennent du côté alpin. Et les loups, au départ, sont italiens. Ce n'est pas à l'accent qu'on les reconnaît, c'est par l'ADN. Et ce sont ces loups-là qui avaient des meutes qui s'étaient installées, qui étaient trop conséquentes, et donc ils ne pouvaient plus chasser de façon correcte. Ils ont éjecté leurs ados, et ce sont ces adolescents qui viennent chez nous. Les ponts ne les gênent pas, les autoroutes ne les gênent pas, ils traversent les autoroutes, ils traversent les rivières, ils traversent les fleuves. Le Rhône a été traversé régulièrement. On le sait parce qu'il y a des animaux. Comment on fait des recherches d'ADN chaque fois qu'il y a une attaque de loup? On trouve le même ADN à un autre endroit. On sait que c'est le même loup qui s'est promené. Et donc, on a vu des loups qui étaient connus dans les Alpes. Il y en a un au sud de la Lozère qui était bien connu dans les Alpes et qui est venu.
Est-ce que le loup peut menacer d'autres espèces?
Alors, le loup, quand il s'installe sur une zone, il va essayer de fonder un foyer. Mais il ne trouve pas toujours, si c'est un mâle, il ne trouve pas toujours une femelle, et si c'est une femelle, il ne trouve pas toujours un mâle. Donc, il y a des fois, il reste tout seul, il reste loup solitaire, et il va s'installer sur un coin, il va essayer de trouver là où le garde-manger est le meilleur.
Je suis un genre de loup solitaire. J'agresse les fillettes et leurs mères. Quand j'ai rien à me mettre sous la dent, je crame dans un wagon restaurant.
Dans un premier temps, je disais donc le mouton, commode. Le mouflon, facile. Le chevreuil, un peu plus difficile, mais c'est quand même pas mal. Et donc, chaque fois qu'il attrape un chevreuil, il attrape 25 ou 26 kilos de viande. Quand il attrape un mouton, c'est de l'ordre de 50 kilos. Et un mouflon, c'est pareil. Ensuite, quand il ne peut pas, s'il n'y a plus de chevreuil sur la même zone, il va descendre dans l'échelle animale. Donc, il va manger des renards. Il va manger des chiens errants. Parce qu'il a la puissance et qui lui permet de régler son problème. Il va se nourrir. Ensuite, il va descendre, il va taper dans les lièvres, dans les lapins, s'il y a des lapins dans cette zone-là. Et si jamais il n'y a pas ça, ben il va se rabattre sur les campagnols, sur les souris, les rats des champs, les choses comme ça. Il ne faut pas dire qu'il ne fait que comme ça. Quand il mange, par exemple, du mouton, si un jour il n'a pas eu un mouton à se mettre sous la dent et qu'il trouve un campagnol, il va manger le campagnol. Il n'est pas fou, il ne va pas le laisser passer. Il impacte donc tout ce qui est possible, tout ce qui est mangeable, donc, y compris les chevaux.
Donc oui, du coup, il est dangereux pour les espèces.
Alors est-ce qu'il menace vraiment, est-ce qu'il va faire éteindre une espèce?
Alors oui, dans certains cas, oui. Par exemple, les mouflons, on sait qu'il y a le risque dans certaines zones, et nous, on avait peur de ça ici, d'avoir une extinction d'espèces. Ça ne s'est pas passé, parce que le loup s'est déplacé. Il a trouvé que c'était trop diffus. Moi, je l'interprète comme ça, que les mouflons devenaient trop difficiles et qu'il fallait courir trop longtemps. Et donc, il est allé un petit peu ailleurs. Ou bien, il a eu ce qu'on appelle la chape de plomb. C'est-à-dire qu'il a peut-être trouvé quelqu'un qui lui a tiré dessus. Voilà, on ne sait pas.
Il a ou ils ont les deux loups.
Pardon ?
Il a ou ils ont les deux loups.
On ne sait pas. On n'a pas de retour. Alors, au niveau communication, lorsque on fait un constat de prédation de loups, on aimerait bien, en retour, savoir qui il est, pas son prénom, mais savoir si on le connaissait déjà, si on le... Ben non. L'État a décidé de ne pas rendre l'information. Voilà. C'est ce qui est dommage.
Quand alors, peut-on estimer
qu'une meute est invalide ? Déjà, avant même la meute, on considère que la présence du même loup deux hivers consécutifs sur le même territoire indique qu'il est installé et qu'il y a une possibilité qu'il ait trouvé à ce moment-là, même si on ne l'a pas révélé, le deuxième loup qui va lui permettre de faire une meute. Donc, on a un couple, même si on n'en connaît qu'un, dans la mesure où il reste deux années de suite sur le même lieu, s'il n'y a pas de nourriture aussi facile que ça, par rapport au territoire voisin, on peut imaginer qu'il a trouvé un deuxième animal qu'on n'a pas encore typé au niveau génétique. Ça s'est passé, ça, autour de Grand-Rieu. Il y avait un couple qui s'est trouvé, qui naviguait un petit peu au nord de la Lozère, entre Grand-Rieu et Nasbinal. Et subitement, ils ont cessé leur activité. Voilà. Alors là, on pense qu'ils ont trouvé une chape de plomb.
Ils n'ont pas eu le temps de se constituer en meute. Bon. Quand est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y ait une installation d'une meute de loups en Lozère ?
Bon, on a envisagé ça. Le départ, donc, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'était un début. Donc, il y avait d'autres signes qui indiquaient que les loups étaient installés. C'est qu'il y avait disparition des renards sur cette même zone et disparition des chiens errants. Donc, les gardes-chasse qui circulent par le pays avaient trouvé que la densité de renards était inhabituelle, elle était effondrée, et que par contre, les chiens errants qu'ils avaient l'habitude de voir régulièrement au bord des chemins n'y étaient plus. Et à ce moment-là, donc, ça indiquait que on avait un début de meute, on avait le couple alpha qui était en train de se faire. Le loup a tendance, ces derniers temps, à avoir une expansion. Alors, tout lui est favorable. On a un boisement qui est extraordinairement dense en France. Hein. Il faut pas voir uniquement la Lozère. Hein. Mais on a beaucoup de bois, donc ça fait des refuges pour se cacher. Et ça abrite aussi le grand gibier, ce qui lui permet d'avoir le garde-manger à proximité. Et il n'est pas tellement dérangé, puisque l'activité agricole a tendance à se concentrer sur les zones les plus favorables à l'agriculture. Tout le reste s'embroussaille. Et on a autant de territoires qui sont très favorables aux loups. Hein.
C'était quand la toute dernière attaque de loup qu'il y a eu ?
La dernière attaque sur quoi ? Sur mouton ?
De loup, enfin, peu importe, mais c'est quand la dernière fois que s'est manifesté un loup ?
La semaine dernière.
C'était la semaine dernière, vendredi, là, quand vous disiez...
Oui, à côté de... tu veux que je te le précise ? À côté de Saint-Enimi, sur le Causse de Sauveterre.
C'était quoi comme bête qui a été...
C'est un mouflon qui a été réimpacté.
Et comment vous êtes au courant du coup ?
Parce que c'est moi qui l'ai trouvé.
C'est vous qui l'avez trouvé. Vous l'avez cherché ?
Non, je ne le cherche pas, mais je me promène sur le terrain où il y a beaucoup de mouflons et je surveille ces animaux-là. Je regarde un petit peu quelle est leur croissance et j'ai trouvé donc. En fait, il y en a trois qui ont été trouvés.
Sur l'oublier, est-ce qu'on peut arrêter le retour du loup dans les Cévennes ?
L'arrêter ? C'est difficile. Comment veux-tu faire ?
Je pense que la question, c'est si on pouvait le tuer, si on pouvait le tirer, s'il n'y avait pas de protection du loup, de convention de Berne et tout ce qu'on a vu pour protéger le loup. S'il n'y avait pas ça et que l'homme pouvait le tirer, est-ce qu'il arriverait encore à l'évincer de régions aussi sauvages, entre guillemets ?
Non. Le loup est suffisamment malin. On pourrait, actuellement, les textes qui permettraient de réguler le loup sont plus que frileux. J'entends que on ne veut pas, sous la pression de gens écologistes, on ne veut pas dire on va tuer les loups, on va... Donc ce qu'on fait, on dit ah ben on va tirer, on va prélever un loup, après beaucoup de discussions, tout ça, et on n'y arrive jamais. En fait, le loup il est malin. Quand on va entourer un lieu dans lequel il est, ben il va pas sortir, il va se tapir, il va pas bouger. Et donc c'est difficile de le chasser.
Et pourtant, historiquement, au Moyen-Âge, puis toutes les années 17e, 18e, 19e siècle, on a réussi non, à l'évincer de certaines...
On a réussi à l'éradiquer, jusqu'à l'évincer. Ouais,
enfin,
mais ce n'est pas par la chasse.
C'est par quoi ?
La chasse qui a été faite au moment notamment de la bête du Gévaudan, on avait réuni des fois jusqu'à 1500 personnes pour entourer un lieu. Mais seulement on prenait ces gens-là, on les obligeait à venir, on leur donnait rien, même pas le casse-croûte, et pendant ce temps, ils avaient souvent des travaux agricoles dehors. Ce qui fait que leur travail de surveillance du lieu où ils étaient, du poste où ils étaient, ben, il n'était pas très bon, hein, puisque le bonhomme, il pensait à son grain qui était mûr, et qu'il allait pleuvoir peut-être demain, et savoir s'il allait perdre son grain, du même coup, s'il pouvait se défiler, il s'en allait. Donc, ces grands enclos avec beaucoup de personnes n'ont jamais été pourvoyeurs de loups. Hein. Ça n'a jamais permis de tuer bien les loups. Ce qui a éradiqué les loups, c'est le poison. Et ça, c'est terrible. Il faut imaginer que si jamais il naissait dans l'esprit de quelqu'un d'empoisonner un cadavre, on détruirait par ce biais-là toutes les espèces qui consomment de la viande.
Donc,
les vautours seraient les premiers qui partiraient.
Les corbeaux.
Les corbeaux partiraient, les renards, les fouines, tout, les chiens. Tout ça. Donc, on ferait un dégât terrible. C'est sûr que le loup, il disparaîtrait. Mais...
Donc, ça serait... uniquement la façon qui permettrait de lutter contre le loup aujourd'hui, si on voulait...
C'est la façon qui a permis voilà. De lutter contre le loup. Il faut imaginer par rapport, si on compare le temps passé, c'est-à-dire du temps de la bête du Gévaudan et avant, il n'y avait pas d'armes précises. En plus, les gens n'avaient pas de fusil à la maison. Il leur était interdit de posséder une arme. La chasse leur était interdite. C'était seul le seigneur qui avait le droit de chasse. Donc du même coup, ils n'étaient pas habitués à se servir de ça. Donc ils avaient des collets, ils avaient des pièges, mais ils attrapaient peut-être quelques loups. Il y avait des gens qui vivaient quand même de ça, puisqu'il y avait une prime à la destruction du loup. Mais par contre, ça ne craignait pas pour l'espèce loup, hein.
Croyez-vous qu'à terme, la présence du loup rend impossible l'élevage en montagne ?
En montagne ou ailleurs, hein, ça pose des problèmes assez importants. La raison est la suivante, c'est que actuellement, le milieu agricole a peu de bras. C'est-à-dire qu'un exploitant agricole, il est souvent seul ou avec son épouse, mais il n'a pas de salariés, il ne peut pas. Il n'a pas un revenu qui lui permette de payer quelqu'un, ou très rarement. Du même coup, sur un même lieu, la présence des gens valides et qui peuvent être utilisés pour garder, par exemple, le troupeau, il y a peut-être parfois le grand-père ou la grand-mère, parfois une tante, quelqu'un de la famille, mais des salariés très rarement. Du même coup, on va amener... un troupeau dans un endroit qui est clôturé avec un grillage, et on va laisser le troupeau toute la journée parce que il y a des travaux ailleurs à faire et on ne peut pas être physiquement présent à côté des moutons ou des vaches ou des veaux et du même coup ça laisse la place au prédateur d'intervenir s'il veut. Donc ça pose un problème à cause de du manque de main-d'œuvre.
Alors après, il y a d'autres endroits, dans les Pyrénées par exemple, où ils ont d'autres modes
d'élevage et de surveillance ou dans les Alpes ou en Italie?
En Italie, ils ont essayé dans un premier temps de faire deux choses. C'est une chose, on disait que les patous, les chiens patous, les gros chiens, les bergers des Pyrénées ou les types Saint-Bernard, ce sont de très gros chiens, empêchaient les attaques de loups. Il faut imaginer qu'il faut un nombre de chiens assez conséquent pour arriver à repousser le loup. Et le loup, il est suffisamment malin pour faire en sorte de se mettre à plusieurs, occuper les chiens d'un côté du troupeau et faire le dégât de l'autre. Ça a d'ailleurs été filmé par les gardes de la Vanoise. Il y a un très joli film de nuit en caméra thermique où on voit donc le troupeau de moutons qui est bien tranquille, puis tout à coup ça bouge d'un côté, on voit arriver un petit individu qui est très vif, c'est le loup, passe à travers le troupeau des grosses masses blanches, puisque ce sont les patous qui arrivent, il y a les patous qui contiennent ce premier loup, donc on voit que le loup il reste, mais il reste présent, et de l'autre côté du troupeau, on voit arriver deux loups qui se servent tranquillement. Voilà. Le loup est très très intelligent. Je vais te donner un exemple qui s'est passé aussi dans les Alpes. Dans les Alpes, on a droit d'intervenir contre le loup que si on a fait, partout d'ailleurs, hein, un certain nombre de mesures. Dans un premier temps, on doit rentrer le troupeau tous les jours, ce qui n'est pas toujours commode. L'enfermer à l'intérieur d'une enceinte fermée, donc close. Un grillage, et dans ce cas-là, c'est un grillage qui est électrifié. Hein? Ensuite, on doit avoir des chiens patous. Donc, l'État aide un tout petit peu à l'achat des chiens patous et à leur nourriture. Un tout petit peu, hein? c'est pas en totalité. Et puis ensuite, si on continue à avoir des attaques de loups, on va avoir le droit d'utiliser du bruit, c'est-à-dire tirer des coups de fusil à blanc.
Ce qu'on a appelé des tirs d'effarouchement.
Voilà, un tir d'effarouchement. On peut l'éclairer aussi, en même temps. Et ce qui s'est passé donc dans ce cas, où ce monsieur avait fait tout, il avait les patous, il avait l'enclos électrifié, et il habitait dans une tente à côté, avec son chien de berger, avec un border collie, un petit chien pour mener le troupeau. Et quand il a entendu que son chien grognait et qu'il entendait les patous qui aboyaient à côté du troupeau, il s'est levé, il avait un phare pour éclairer, et il a éclairé les patous, il voyait les patous qui aboyaient vers les moutons, et au milieu des moutons, il a vu deux yeux de loup. Le loup était dans l'enclos, et il était en train, moi je dis, de toucher quelle était la plus grasse pour choisir. Donc, même un grillage, même des patous, même la présence de l'homme ne suffisent pas à empêcher le loup. Il est suffisamment malin, monsieur, pour déjouer tout ça.
Comment il est arrivé à rentrer?
Ben, il a sauté.
Mais il faut mettre un grand grillage.
Ben oui, mais...
Ça coûte des sous.
Exactement.
C'est pas toujours commode.
C'est pas commode, hein. Et alors le travail qu'il faut pour rentrer les animaux tous les jours, il y a des coins dans les Alpes où ils montent le troupeau le matin, et pour le redescendre, il faut plus d'une journée. Donc, c'est pas faisable réellement ce qu'on leur demande.
Est-ce que le pastoralisme est compatible avec la biodiversité?
Alors, on en a parlé beaucoup, ça. Alors, la biodiversité. Alors, la biodiversité, il ne faut pas que un élément de la biodiversité réduise la biodiversité. Hein, parce que le loup, justement, il peut réduire la biodiversité. Dans la mesure où il éteint une espèce localement. Je ne dis pas qu'il l'éteigne sur toute la Terre. Mais localement, si au nom de la biodiversité, on laisse faire quelque chose qui dépasse la mesure, ça ne va pas. Le problème qui se passe, c'est un milieu sauvage où l'homme n'est pas présent, où l'homme ne vit pas, l'homme ne travaille pas. Ben, que le loup fasse ses dégâts là-dedans, il va y avoir un équilibre qui va se faire au bout d'un moment. Quand les loups auront tué suffisamment d'animaux, ils ne se reproduiront pas plus que d'habitude, parce que il y aura moins de nourriture à leur disposition. Donc, il y aura un équilibre qui s'installera. Mais ce n'est pas un équilibre qui tient compte de l'homme. L'homme, il est là au milieu. Et donc, l'activité humaine, elle est difficile. S'il y a un élément qui gêne cette activité, ça pose problème. Et c'est là que le loup pose problème.
Ah oui,
mais
on
n'est
pas
un
homme qui gêne l'activité de loup.
Eh oui. C'est
ah,
sûr.
Monsieur, tout à fait, Abel.
Oui. Par contre, vous entendez en fait toucher pour savoir quel était le bouton plus grand.
Non, c'est une vanne. Non, il était au milieu. Il était au milieu et donc il avait tout loisir.
Il n'était pas encore en train de manger. Quoi.
Non.
Il est en train de choisir, c'est ça.
Voilà. Et alors, dans un enclos, imagine un loup dans un enclos, les moutons effrayés, ils vont se serrer sur les bords. Et ils vont s'étouffer les uns les autres. Donc le remède est pire que le mal.
Est-ce qu'il est possible de protéger les troupeaux des attaques du loup? Vous avez un peu expliqué ce qui se faisait par exemple dans les Alpes. Est-ce qu'un chien patou peut faire fuir le loup? Vous y avez un peu répondu.
Alors,
avec
il faut,
la ruse, peut-être que vous voulez compléter sur ces moyens de défense.
Il faut compléter un tout petit peu ça. Le nombre de chiens qui serait nécessaire à la protection d'un troupeau, il est énorme. Il faut compter qu'il faut entre 8 et 10 chiens pour arriver à couvrir à peu près le territoire de pâture d'un troupeau. Parce que ça pose un problème aussi d'élevage de ces patous. C'est-à-dire que ces patous, on les met chiots avec les moutons, ils sont élevés avec les moutons, ils ne voient que très peu l'homme, le propriétaire n'est pas très très présent, et par contre, ils se considèrent très certainement comme des moutons eux aussi. Hein. Et donc, ils vivent avec les moutons, et ils protègent, comme ils sont plus gros, ils protègent les moutons. Seulement, cet élevage coûte hein, pour maintenir des animaux comme ça. Et un jour, je me promenais donc dans un autre pays, il y avait un berger qui avait une dizaine de chiens qui étaient, c'était pas des patous, mais c'était à peu près le même calibre. Et donc, j'ai dit, il doit avoir une chienne en chaleur, et donc c'est pour ça qu'il a autant de chiens qui sont autour de lui. Et un monsieur qui était de ce pays m'a dit, non, pas du tout. Il a un nombre de chiens pour le loup, qui sont autour de lui, mais il en a pas assez parce qu'il y a les ours. Parce que c'est une zone où il y avait des ours, et il me dit, en dessous de 12 chiens, l'ours prend quand même. Alors, donc, c'est un autre prédateur, hein, possible.
Alors, malgré tout, est-ce que vous auriez une idée de mesures qui fonctionnent?
Non, il n'y a pas réellement de mesures. Ce qu'il faudrait que, lorsque le loup interfère dans une zone agricole où il y a de l'élevage, comme ça se passe en Lozère, il faudrait qu'on puisse permettre la régulation, c'est-à-dire régulièrement intervenir pour que le loup est tellement intelligent que si un jour il est repoussé physiquement et par arme, hein, parce qu'il faut bien parler malheureusement de ça, il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il ne pourra plus s'approcher de ça sans danger. Et il aura tendance à reprendre des précautions, alors qu'actuellement, il ne subit pas grand-chose. Et donc, il va au plus facile. Si le plus facile est piquant, il ne s'y approchera pas trop.
Parce qu'ici, je crois que c'est un peu ce qui se dit, qu'on a des régions un peu vastes, sauvages en petit, avec beaucoup de gibier, beaucoup de sangliers, beaucoup de cervidés, justement presque trop, et que ce loup pourrait peut-être réguler un peu tout ça. S'il ne s'approche pas des troupeaux parce qu'on les farouche, voilà. Au niveau des troupeaux, est-ce qu'on n'arriverait pas à cohabiter?
C'est le vœu qu'on fait. Hein. Il faudrait arriver à ce que le loup ait peur de s'approcher des troupeaux.
Ça vous semblerait réaliste?
C'est difficile. Mais il faudrait, dans ce cas-là, il faudrait que toute présence du loup à proximité de l'homme soit punie. Et donc
pareil par
chasse. Même par chasse. Il faut que ce soit physique. Effarouchement, au bout d'un moment, il y a un malin qui avait inventé un truc à mettre sur le dos des brebis. Ça envoyait une odeur, ça puait, ça criait et ça faisait des éclairs. C'était... Alors, c'était un appareil qui a été breveté, s'il vous plaît, hein, et qui coûte très cher. Et donc, ça émettait donc un parfum qui est censé ne pas plaire au loup. C'était en fonction de l'activité cardiaque de la brebis qui portait l'appareil. C'est-à-dire que quand le loup s'approche d'une brebis, la brebis accélère son rythme cardiaque. Donc, ce système-là, l'accélération du rythme cardiaque déclenchait l'appareil. Donc, il se mettait à faire des éclairs lumineux. Il faisait du bruit, il y avait un bruit de klaxon qui se... Je me demande comment réagissait le troupeau dans ce cas-là. Et puis ça envoyait du parfum, enfin je dis un parfum, quelque chose qui puait pour le loup. Voilà, ça c'est, ça fait partie des... Hein ? Mais bien sûr que si, certainement. Ça ne servait pas à grand chose. Enfin, il y a toujours des inventeurs.
Hein. Le loup, les attaques sur l'homme. Est-ce que l'homme se fait réellement attaquer par l'homme?
Voilà.
Parce qu'effectivement, il faut leur en parler, parce que globalement, la réponse du parc, je crois, à des questions d'enfants comme ça, c'est par une personne... n'engage peut-être qu'elle, mais c'était qu'il n'y a jamais eu en fait, d'attaque sur... que ça n'existe pas, que c'est un...
Morisseau est un andouille, alors...
Alors voilà, Morisseau, alors moi c'est ce que je lui ai répondu. Tao, vas-y, tu as une question.
Monsieur, est-ce que l'homme se fait réellement attaquer par le loup?
Oui.
Donc on atteint le dernier thème, effectivement, oui. Les attaques du loup sur l'homme.
Alors, c'est pas une question de manque de nourriture, hein.
Là, c'est défense plutôt,
non? Non plus. Le loup, il est peureux. C'est-à-dire, il ne va... Mettons que je sois dans une pièce et il y a un loup. Il ne va pas m'attaquer. Il va chercher les coins. Il va chercher à me fuir. Par contre, si je m'approche contre lui, vers lui, et si je lui empêche toute zone de fuite, il va m'attaquer, mais pour fuir. Mais il m'attaquera, y compris, jusqu'à me détruire, s'il peut. Pour détruire ce qui le gêne.
C'est dans une salle, justement, il y a le loup, et s'il y a une fenêtre ouverte, il va sauter, ou il va...
Donc, est-ce qu'il va préférer s'enfuir s'il y a une issue, ou est-ce qu'il va préférer attaquer?
Non, il s'enfuira. S'il peut, il s'enfuit, il s'en va. Alors, ce qui s'est passé au niveau attaque d'homme, on sait que, au niveau historique, on sait qu'il y a eu pas mal d'hommes qui ont été tués par les loups. Alors, attends. Je vais te dire ce que je sais. Et alors, il y a des... c'est dit, c'est même écrit. Hein. Alors, quand... Tu sais, quand un écrit est, par exemple, autant à Brest qu'à Amiens, qu'à Béziers, que le même écrit, tu peux te dire qu'il y a peut-être quelque chose. Hein?
C'est alors, bien. La bête du Gévaudan, parlons-en.
Alors, je fais un petit raccourci avant. Hein. On parlera dans la bête du Gévaudan après. Donc, ce qui était... je vois que tu as vu les trucs de M. Morisseau, là.
Donc, c'est les livres hein. dont se sont servis les autres élèves avant.
Bon, je les ai, là. Hein. Mais alors, Morisseau, lui, son principe, c'est de dire... C'est celui-là, hein? Non? Ouais, bon. Alors, donc, ça, c'est le grand méchant loup. Non, c'est celui-là, le grand méchant. C'est celui-là, hein? Alors, 3000 attaques sur l'homme en France. C'est 3000 morts, hein? C'était pas des attaques. Au cours des siècles, sur deux siècles de temps, il y a eu 3000 hommes qui, en France, sont morts par le loup. Morts? Non pas de la rage, parce que il y a deux façons pour le loup d'attaquer. Soit il attaque pour tuer, soit c'est une maladie qui l'oblige à attaquer. Il existe une maladie qui sévit aussi sur les chiens, la rage, qui les rend complètement dingues, et donc ils vont mordre tout ce qui se passe à portée, et ils vont transmettre cette maladie. Et même les humains vont mourir de rage après. Donc dans ces 3000 attaques, il n'y a pas les attaques de rage. Hein? Alors, à l'époque, les personnes qui savaient écrire, il n'y avait que les curés et quelques seigneurs qui savaient. Donc les curés, ils tenaient les registres de paroisse pour les enterrements. Et donc ils notaient ce qu'ils enterraient. Et quand ils savaient, à cette époque-là, le loup, ils envoyaient partout, puisqu'il y en avait partout. Et donc tous les gens connaissaient le loup. Ils avaient... Hein?
Là, il parle bien de la France.
De la France, hein. Donc, les gens, ils envoyaient dans la journée, ils envoyaient le loup, les attaquaient pas tout le temps. Loin de là. Mais ils savaient reconnaître un loup. Ils passaient, ils voyaient au loin quelque chose, ils disaient, eh, c'est un loup. Donc, quand ils ont dit à leur curé que leur enfant était mort par un loup, c'était un élément de preuve quand même, hein. Ensuite, ces curés-là ont enterré des fois des morceaux, uniquement des morceaux d'enfants ou de personnes ou de femmes, puisque le loup, à ce moment-là, tuait surtout les femmes et les enfants qui se défendaient mal. Hein, ils étaient moins forts que le reste. Les humains adultes, enfin les hommes adultes étaient un peu plus costauds, bien qu'ils étaient à cette époque sous-nutris, donc ils ne mangeaient pas grand-chose. Ils n'avaient pas beaucoup de force. Et se battre contre un loup, ça exige beaucoup d'énergie. Alors à ce moment-là, on peut dire que, vu le nombre de cas relevés dans les paroisses, on peut imaginer que la présence du loup était là et qu'elle faisait des dégâts. Ensuite, les enfants, on les envoyait garder les troupeaux depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 8 ou 9 ans. Donc imagine un enfant de 3 ans, comment il se défend contre un chien? Il ne peut pas.
Mais
c'est con d'envoyer
un enfant de 3 ans.
C'était la main d'œuvre qu'ils avaient à ce moment-là.
Non, mais
le mouton, le petit. Et oui. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a eu autant de dégâts. Et puis, ils attaquaient les femmes quand elles étaient dans des situations qui ne leur permettaient pas de se défendre, notamment quand elles allaient faire leurs besoins. Donc, et ils se faisaient étrangler. Et oui, c'est ça qui est grave, tu vois. Mais je sais que maintenant, tu y penseras à ça.
Est-ce que vous avez d'autres questions qu'on avait peut-être posées sur la belle du Gévaudan?
Tao, vas-y.
Les impacts se sont arrêtés quand quelqu'un avait tué un loup. Il était gros comment déjà, ce loup?
C'était un gros loup. C'était ce que dit l'histoire, la légende de la bête du Gévaudan. Mais si on prend justement les écrits qui ont été répertoriés sur toute la France à la même époque, Maurice dit la bête du Gévaudan, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis d'autres bêtes ailleurs. C'est pas la bête qui a le plus détruit d'humains.
C'est quoi ça, c'est la bête?
Alors, il faut se dire une petite chose, c'est que à ce moment-là, il y avait beaucoup de guerres à l'intérieur de la France. Tout le monde se faisait la guerre, plus ou moins. Et on n'enterrait pas les morts. Quand il y avait des pendus, à ce moment-là, on pendait les gens au écourt. Et quand ils tombaient de la corde, eh ben, on ne les enterrait pas. Puisqu'ils étaient voués à la vindicte publique, on ne les enterrait pas, on les laissait pourrir. Alors, il y avait les corbeaux qui venaient les manger. Il y avait les chiens, il y avait les cochons et il y avait les loups. Les loups, ils ont pris l'habitude de manger de l'homme sans aucun problème. Le goût de l'homme ne les répugnait pas. Et ils se sont rendus compte aussi que les enfants, c'était encore meilleur. Parce que c'est plus tendre. Comme il y avait des petits bergers, ils avaient des petits bergers à leur disposition.
Ça doit être bon, le petit berger. De 3 ans. On termine là-dessus.
Sur la bête du Gévaudan un petit
sur
peu.
Sur la bête du Gévaudan encore un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez vous donner les quelques...
Non.
Il y a une histoire, vérité. C'est un mec qui dressait des chiens.
Voilà, ça a été dit, ça aussi. Il y a eu... C'est une légende, hein, la bête du Gévaudan, c'est-à-dire c'est des on-dit, hein, mais il y a des faits quand même, et les faits sont têtus, c'est-à-dire que dans la mesure où on trouve de la mortalité qui a été répertoriée régulièrement, et à des dates très précises, on sait qu'il y a des zones où le loup est intervenu contre l'homme. On l'a appelé bête du Gévaudan après, parce qu'on a raconté l'histoire de Jean Chastel qui, avec une balle d'argent bénite, avait tué le loup et que c'est le dernier loup qui a fait des dégâts. Et il faut imaginer que c'était un peu tout autre chose.
La nuit n'appartient pas aux hommes. La nuit n'appartient qu'aux êtres créés pendant la nuit. Une légende venue du fond des âges raconte que la déesse de la lune, Ixchani, jalouse de la création de l'homme par le soleil, fit naître des ténèbres le premier couple de loups. C'est ainsi que les loups se répandirent sur toute la surface de la terre.
Le loup vis-à-vis de l'homme fait encore des dégâts. Le loup attaque encore, à l'heure actuelle, l'homme.
En France ?
Pas en France.
Pas en France.
Les derniers cas en zone civilisée se passent au Canada. Il y a 5 ans, une joggeuse a été trouvée à l'état de squelette, mangée par les loups. Donc les Canadiens, ils ont une législation qui leur permet... Voilà. Et les Canadiens ont une législation qui n'est pas comme la nôtre. Il y a la convention de Berne n'existe pas chez eux. Hein. Donc, voilà. Ils ont fait un périmètre d'une centaine de kilomètres autour de l'endroit où on a trouvé cette pauvre dame. Et ils ont abattu tous les loups. Mais, par contre, tous les loups ont fait l'objet d'analyses systématiquement d'ADN et de l'ADN de ceux qu'ils avaient mangés. Et donc, on a trouvé l'ADN de cette dame qui avait été mangée sur certains nombres de loups. C'était des loups jeunes, maigres, et qui vivaient au milieu de troupeaux de cerfs. Là-bas, il y a le cerf de Virginie qui est très, très abondant. Et donc, il pouvait manger. Alors, ça posait une question. Pourquoi est-ce qu'il s'était attaqué à cette dame, hein? Un an après, donc après qu'on ait eu nettoyé ce terrain, une deuxième joggeuse, de nouveau, est tuée par des loups. Le jogging est dangereux, donc.
Au Canada, hein? N'allez pas faire de...
Et donc, une deuxième est tuée, et elle n'a pas été totalement mangée, on a trouvé, on a fait de nouveau, c'était pas le même endroit, on a fait de nouveau ce fameux périmètre pour analyser, voir, et on est retombé sur des loups jeunes, maigres, et avec des cerfs à disposition. Troisième joggeuse attaquée, qui s'est arrêtée, et elle a vu l'attaque. Et donc, elle a fait face aux loups.
Et non.
Non. Et les loups, ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont fait une recherche pour savoir pourquoi les deux précédentes avaient été mangées, pourquoi pas elle. En fait, ils ont trouvé que les deux précédentes, elles écoutaient de la musique. Et elles faisaient du jogging. Donc, elles n'ont pas vu les loups. Et elles n'ont pas entendu, et elles ont continué à courir. Or, une proie qui fuit devant, pour un prédateur, c'est une proie à attraper. Et donc, ces loups, ils ont attrapé parce que ça continuait à courir, ça partait. Pourquoi est-ce que c'était des jeunes loups? En fait, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, des ados mal éduqués.
Ils ne savaient pas comment...
Ils savaient pas chasser comme il faut. Donc, les cerfs étaient... trop difficile à chasser, et ils ont vu quelque chose qui courait bien moins vite, et l'effet de meute, quand c'est comme avec les chiens, un seul chien qui court, on peut l'arrêter, quand il y en a deux ou trois, ben, ils font des sottises ensemble.
En fait, pour tout prédateur, c'est pareil pour tous les prédateurs, il ne faut jamais fuir.
Exactement.
Il faut fuir en reculant devant lui.
Exactement.
Si on fuit comme ça, il...
Exactement ce qu'il faut faire. C'est la conduite à tenir, non pas uniquement avec un prédateur, mais vis-à-vis d'un animal qui peut te faire du mal. Que ce soit un éléphant, un rhinocéros, pareil. Si tu fuis, bon,
derrière. Et en plus, les carnivores, si tu fuis, ils disent ça, ça se mange.
Je sais pas si elle avait genre refait un jogging il y a pas de plus.
Mais c'est pas le jogging qui est dangereux. Hein.
En sport, vous ne faites pas faire de jogging. Hein.
On va peut-être conclure.
Moi, il me restait quand même une question ou deux qui ne semble pas être dedans, mais juste que je rajoute. Est-ce que vous en avez déjà vu un en vrai de loup?
Sauvage.
Sauvage. Non.
Non. Le loup est suffisamment malin pour ne pas se montrer. Il y a des photographes animaliers qui ont passé 3 ans dans les Alpes en cherchant le loup, et c'est la 3e année qu'ils ont pu le voir 2 jours. Ils ont pu faire des photos et même une partie de film que j'ai vu sur ce loup. Et tout le reste du temps, ils ont traqué un loup, ils voyaient des pistes, ils voyaient les cadavres des bêtes qu'il avait commencé, et jamais ils ne le voyaient. Ils avaient mis des pièges photographiques qui ont plus ou moins marché, mais eux-mêmes n'ont pas pu le voir comme ça.
Et ma deuxième et dernière question, c'était de savoir si vous étiez pour ou contre ce retour du loup. Est-ce que vous aviez, vous, une position par rapport au pastoralisme local et à la situation actuelle que nous vivons?
Actuellement, avec l'agriculture qu'on a, le loup n'a pas sa place chez nous. Les agriculteurs ne peuvent pas le subir. Notre civilisation ne lui permet pas d'avoir sa place. S'il se cantonnait à la faune sauvage, oui. Mais il faut l'y expliquer.
C'est Alain Quette, et c'est un vétérinaire qui va soigner les animaux directement. Et c'est un vétérinaire praticien.
Donc il se déplace, c'est ça
dans les... Il se déplace sur les élevages, et d'accord. Il va soigner les bêtes dans les élevages, donc il connaissait très bien les agriculteurs. L'information qu'il ne vous a pas donnée, c'est qu'effectivement il vient du Causse Sauveterre. Après, il est intervenu apparemment partout dans la région. Je pense qu'il avait un champ d'action très large, et il est à la retraite maintenant. Donc il a arrêté de travailler. Malgré tout, il a bien présenté aussi sa position comme un vétérinaire praticien, mais aussi un naturaliste passionné de la faune sauvage. Donc il s'est présenté comme ça veut dire qu'à côté de son métier, il aimait aussi beaucoup s'intéresser à plein d'autres choses, notamment au loup.
Ben, il a dit qu'il avait trouvé des cadavres, et qu'il avait jugé que, par son expérience, que c'était un loup qui avait tué des mouflons.
Parce qu'il aime bien suivre les mouflons et faire des comptages et de voir si la population de mouflons augmente ou diminue. Ben lui, il a été se balader, voir si les mouflons qu'il connaît, dans les lieux qu'il connaît, étaient encore là, et il est tombé sur un cadavre mangé par un loup.
Il nous a bien expliqué comment différencier les différentes morsures, soit de loup, soit de chien, les différences, la pression de la mâchoire. Le loup, c'est 160 de pression
par centimètre.
Au centimètre. Et le chien, c'est 60 kg au centimètre. Carré. Le loup, il mord qu'un seul endroit, c'est-à-dire au cou. Et ça sera toutes les veines, la trachée qui sera coupée, alors que le chien, il va pas faire ça.
D'accord.
Le chien sauvage, quand il tue un animal, il mordait un peu partout, sur la cuisse, sur le ventre, sur...
D'accord. Alors qu'un loup?
Alors qu'un loup, il mord que au niveau du cou, et la mort, elle est quasiment directe, alors que le chien, ça va mettre plus de temps à le tuer.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il mange en premier, le loup aussi?
Et le loup, il mange en premier, alors il va d'abord couper les côtes, pour... Il va manger les côtes, après il va manger les poumons, le cœur, le foie, tout ça. Et l'utérus, oui.
Un utérus et un anecdote.
Alors que le chien, lui, c'est un peu plus pour s'amuser, il va tuer plus de bêtes.
Il nous a dit aussi que les chiens errants, quand ils attaquaient un troupeau, déjà ils attaquaient à plusieurs et ils tuaient 8 bêtes à peu près. Alors que le loup, il tuait qu'une seule bête.
Ouais, une seule bête à la fois.
Il pouvait manger jusqu'à... 8 kilos de nourriture.
J'ai dit aussi le loup, quand il mange une bête, enfin il mange d'abord, il mange les poumons, tout ça, comme je sais plus qui l'a dit, mais après il va plus loin pour digérer, il digère pendant 72 heures, je crois, il nous a dit. Et après, enfin il revient pour manger le reste, s'il n'y a pas d'humain qui le dérange ou quoi.
Le loup, il n'a pas été introduit, il est revenu tout seul dans la région. Ils se sont séparés de leurs parents, mais les jeunes adolescents, ils sont partis et ils sont venus dans ces régions-là.
Pour le loup, quand il est revenu ici, il peut faire 50 à 100 km par jour et que les ponts, les autoroutes, les routes, les fleuves, les rivières, ça ne le gênait pas pour avancer.
À l'époque, dans le Mercantour, ils pensaient que c'était des écolos qui avaient réintroduit le loup.
Oui.
Tu te rappelles? Et qu'il y avait eu toute une polémique.
Là, c'est un mythe aussi ici. Hein. On a ce bruit qui court qu'ils auraient été réintroduits. Alors que lui, il explique bien là que non, passer le Rhône, traverser les régions, aller des Alpes, des Alpes italiennes jusque dans les Pyrénées, ça se fait facilement et c'est normal.
Au départ, les gens croyaient qu'il n'y en avait qu'un, sauf que lui, il pense qu'il y en a deux. Un jour, ils ont trouvé un corps de mouflon avec des traces ADN. Et puis quelques jours après. Un jour après, il y a à 300 mètres du premier corps, il y a eu un autre mouflon mort et...
C'était pas le même loup.
Non, c'était pas le même loup.
L'État, il voulait pas dire qu'il y avait deux loups parce que sinon ça affolait les gens. Il nous a dit ça.
Ça crée une psychose, c'est ça?
Je sais pas, il a dit qu'il voulait pas que l'État voulait pas affoler les gens.
D'accord. Mais... Et lui, donc, il pense qu'il y en a deux, c'est ça?
Oui. Il nous a dit aussi que les loups qu'il y avait en Lozère, c'était des loups, ceux qui s'étaient fait virer de la meute, les jeunes qui s'étaient fait virer de la meute et qui sont venus du coup. Genre, je sais pas pourquoi vraiment, mais je pense, enfin, ils voulaient, je sais pas, il nous a dit parce qu'ils avaient trop d'ambition et du coup ils se sont fait virer. Du coup, ils cherchent un territoire et donc du coup ils sont venus en Lozère.
Donc c'est des loups solitaires en fait.
Ouais, alors. Mais d'accord. Du coup, enfin, je pense qu'ils cherchent un autre loup pour pouvoir faire un. Pour pouvoir faire une meute.
Il nous a dit qu'un loup s'était installé quand il avait passé plus de deux hivers dans le même territoire.
Que c'était super difficile de protéger son troupeau. Parce que par exemple, il fallait à peu près 10 chiens patous pour faire fuir les loups. C'était super compliqué. Il nous a aussi dit que un patou ça pouvait pas suffire, même deux ça pouvait pas suffire, qu'il fallait au moins 8 à 10 patous pour pouvoir faire fuir un loup. Ou en tout cas pour recouvrir toute la zone. Parce que les loups, il a dit qu'ils étaient tellement rusés qu'il y a même une vidéo qui a été faite montrant que avec 4 patous, ils se sont occupés d'un loup qui était à un bout du troupeau et qu'à l'autre bout du troupeau, pendant ce temps-là, il y avait deux loups qui se régalaient. Ils sont tellement malins qu'ils arrivent quand même à trouver une parade contre seulement 4 patous. Ils arrivent même à passer des clôtures électriques. S'ils arrivent à sauter, même à creuser, peut-être aussi.
Et il disait qu'il fallait minimum 12 chiens patous pour pouvoir protéger dans les zones à ours.
Oui, il y a un budget croquette, là, énorme.
Et il disait que quand même les patous, il y avait une toute petite partie qu'elle les achetait, que l'État, je crois, ça leur reversait.
Ouais, il y a des subventions pour acquérir des patous.
Il donne un tout petit peu pour la nourriture et pour l'achat des chiens.
D'accord.
Mais surtout, finalement, il est minime par rapport au coût réel de l'achat du chien et de surtout le nourrir ensuite.
Il peut menacer d'autres espèces et faire une extinction d'une espèce.
Le mouflon?
Le mouflon, par exemple, sur le verre, qui est déjà pas très bien implanté, enfin, il n'y en a pas énormément. Et du coup, il a donné cet exemple. Là, oui, la vie du mouflon est en péril.
Il y a pas longtemps, il a trouvé un cadavre de mouflon qui était pas encore, enfin le sang était pas encore coagulé.
Oui.
Et il venait sûrement de déranger le loup en train de manger. Du coup, ça prouve qu'il y avait un loup dans le territoire.
C'est lui qui a vu un cadavre de mouflon.
Oui.
C'était pas.
20 minutes, puisqu'il dit que
20 minutes.
20 minutes, ça veut dire qu'il était tombé sur le mouflon à moins de 20 minutes après. Qu'il
d'accord.
Lucie nous a dit pour voir quel loup avait tué les bêtes ou quoi, et ben il faisait des prélèvements d'ADN dans les excréments que les loups laissaient à côté, parce que généralement pendant qu'ils mangeaient, ben ils avaient besoin d'évacuer vite fait, donc ils faisaient près de la bête.
D'accord.
Du coup, ils prélevaient dans les excréments qui étaient près des bêtes.
Il y avait aussi qui nous avait donné l'exemple, comme il met 72 heures à manger, ben le jour où il a retrouvé le premier cadavre où le sang avait mis 20 minutes à coaguler, il a compris que c'était un loup, donc il a compris qu'il y avait un loup enfin en Lozère. Et le lendemain, il a compris tout de suite qu'il y en avait un deuxième, puisque il y a eu un autre cadavre qui a été découvert où c'était exactement la même chose qu'il avait vu sur le premier. Et c'était quelqu'un qui lui a apporté, quelqu'un du parc national, je crois. Il avait vu un loup s'enfuir, enfin une silhouette s'enfuir. En tout cas, il l'a pas réussi à la prendre en photo, mais il a pris en photo le cadavre. Et c'était pareil que sur le premier, sauf que comme il met 72 heures à digérer, en 24 heures, ça veut dire que c'était forcément un autre loup. Donc.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il y en avait d'autres.
D'accord.
On ne peut pas empêcher le retour des loups dans les Cévennes parce qu'il faudrait pouvoir les exterminer en les tuant aussi, sauf que la loi l'interdit.
On l'a fait dans le temps pour réussir à
exterminer. Ah oui, on a pu les exterminer grâce à du poison qui a été mis dans les cadavres, tout ça.
Les loups ont été exterminés et ils nous disaient que c'était pas par la chasse mais par le poison. Et que le poison, on pouvait tuer des milliers d'espèces avec le poison.
D'accord.
Rien qu'en en mettant sur un cadavre.
Bah, il a dit que c'était pas possible parce que déjà, ça exterminerait les loups, mais ça exterminerait aussi d'autres animaux, les corbeaux, les vautours, enfin tous les charognards, quoi. Donc, les renards aussi. Enfin, tous les charognards, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, ce serait pas vraiment. Ouais. Que ce serait pas vraiment une solution parce que ça exterminerait les loups, mais ça exterminerait plein d'autres espèces, quoi.
Il a dit aussi qu'il y avait des prélevages de sang tous les ans pour éviter les maladies et donc éviter la mort des moutons, quoi.
On nous a dit que les maladies faisaient plus de morts que les loups.
Il y avait quand même l'effet de suicide collectif ou d'effraiement ou de stress
de
des troupeaux qui faisait que même si le loup n'en attaquait et mangeait qu'un seul ou deux. Bah, il y en avait peut-être 50 qui allaient se jeter de la falaise parce qu'elles avaient eu peur. Donc, en fait, ça, c'était pas pris en compte dans le 0,1%. Là.
Et des joggeuses, elles ont été attaquées par des loups. Elles avaient un casque, elles écoutaient la musique. Donc, elles avançaient, elles n'avaient pas entendu les loups. Donc, ils considéraient que c'était une proie à attaquer. Et l'autre, elle ne s'est pas fait attaquer. La troisième.
Pourquoi ?
Non. Parce qu'elle bougeait pas, donc elle s'est pas fait attaquer.
Elle
elle leur fait face.
Ils ont retrouvé la trace d'ADN des loups en faisant une battue de 100 km carrés. Pareil pour la deuxième.
Ouais. Ils racontaient aussi qu'ils avaient pu les abattre. Hein.
Ils avaient abattu tous les loups dans 5 km carrés.
Sur un périmètre de 100 km carrés.
À deux reprises.
Pas faire chez nous, hein.
Et du coup, ils ont fait le loup qui avait. Les loups, pardon, qui avaient croqué la
dogueuse. Des jeunes loups, d'ailleurs, il a dit. Hein. Des jeunes loups de 2 ans qui étaient maigres, alors qu'ils... Des ados mal éduqués, il avait dit. Hein.
Oui, parce qu'ils...
Pourtant, il y avait suffisamment de viande autour d'eux, mais...
C'est trop compliqué. Il nous a parlé au Moyen-Âge des gens qui se faisaient attaquer. Enfin, c'est des jeunes enfants qui gardaient trop poids à l'époque. Et 3 ans, à peu près, ils se faisaient attaquer quand ils avaient... Ils s'occupaient des brebis. Vu que le loup, c'était courant au Moyen-Âge, donc il se faisait attaquer.
Contrairement à ce qu'on nous a dit au parc, donc pour lui, c'est bien une évidence qu'on a eu des attaques de loups. Il croit complètement tout ce qui est dit par Morisseau, à savoir qu'il y a eu 3000 attaques en 2 siècles sur l'homme en France. Et puis, il insiste bien en disant que c'était un contexte particulier, qu'il y avait beaucoup de loups en France, qu'il était très connu et que les archives qui rapportent que la mort elle est accidentelle causée par un loup, et bien que ça c'est, pour lui c'est avéré. Alors qu'au parc, ils nous ont dit non, ces textes, les gens ils connaissaient rien aux loups, ils pouvaient pas dire que c'était vraiment un loup ou s'ils l'écrivaient, c'était pas forcément attesté par justement un constat, un vétérinaire comme on le fait aujourd'hui. Donc, on a 2 positions hein, pour l'instant, qui sont assez opposées et argumentées chacune.
Vous avez dit qu'à l'époque, beaucoup de gens étaient pendus, étaient tués, et ils n'étaient pas enterrés, ils étaient laissés sur place à côté du pilori. Oui, voilà,
ouais.
À côté du pilori. Donc, les loups, les chiens, les cochons, les vautours, tout venait manger. Et depuis, les loups, ils ont pris le goût du sang et ça ne les dérangeait pas. Donc... ils sont habitués à manger de l'homme et ça les a pas plus embêtés que ça. Il a aussi dit que c'était bon la chair d'homme, mais la chair d'enfant c'était encore mieux parce que c'était plus tendre. Le loup s'attaquait plus aux femmes et aux enfants. Les enfants qui étaient de 3 ans à 8 ans en train de garder les troupeaux et souvent les loups les attaquaient. Et les femmes c'est quand elles allaient faire leurs besoins.
Enfin, quand elles sont des proies faciles, genre quand elles sont enceintes ou quoi.
Mmh.
Et qui les étranglaient du coup. Enfin,
quand elles font leur avec des macmans aussi, visiblement.
Oui, aussi qu'ils n'avaient pas vu le loup en vrai, ils avaient fait des pièges photographiques, mais ils n'avaient pas pu voir le loup en vrai.
Il nous a parlé d'un appareil qui était breveté. C'était une espèce de, un bloc qu'on mettait sur le dos des brebis, qui était relié à leur rythme cardiaque. Et quand le loup arrivait, ou que leur rythme cardiaque accélérait, ça dégageait une odeur et des éclairs de lumière et des sons pour écarter le loup.
D'accord.
Donc, tu disais que ça marchait.
Non, pas vraiment. Puis ça faisait peur aussi aux brebis, du coup, ça les stressait. Ça pourrait être plus dangereux qu'autre chose.
Les rentrer tous les jours, avoir un chien patou, que l'enclos soit électrique et qui est
électrifié.
Oui, qui dorme à côté avec une tente. Et là, il peut éventuellement l'éclairer ou le tirer dessus.
Alors, il nous a dit qu'à partir de 3 ans, le loup, il était fait un âge d'attaquer. Il était assez agressif. Et au bout de 8 ans, il devenait vieux. Donc, ses dents commençaient à tomber, il commençait à avoir des rhumatismes. Donc, il s'attaquait plus aux proies, il devenait un vieux loup. Donc, la plupart du temps, il mangeait des musaraignes ou des petits animaux.
Déjà, il était contre la réintroduction. Il était contre le loup, déjà. Ouais. Parce qu'il trouvait que c'était pas compatible avec l'élevage.
Et pourquoi?
Parce qu'il trouvait que ça empêchait, que ça tuait des bêtes, tout ça. Donc, pour lui, ça. Que le loup, il gênait l'activité de l'homme.